Donc, en tout cas, je suis ravi, nous sommes ravis d'être ici pour la toute première fois. On connaît l'église de Pessac, les gens de l'église de Pessac depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai qu'on n'était jamais venu ici et vous avez un beau bâtiment, on n'a pas tout visité, mais déjà ce qu'on a pu voir, je trouve que vous êtes bien installé. Voilà, donc vous avez aussi le bonjour donc de la famille de Corentin et de l'église de Cahors. Voilà, ce matin on a chanté quelques cantiques, je voulais en retenir deux, mais je vais peut-être retenir l'avant-dernier qu'on a chanté. « Oh Dieu, relève-nous », il y a une strophe là, que j'ai voulu retenir, c'est dans la dernière strophe, bon, peut-être que vous voulez rechercher le numéro, c'est le numéro 301. Et en fait, c'est juste la première partie de la dernière strophe. « Oh Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. » Alors, c'est intéressant ça. « Viens et pardonne la tolérance de nos compromis. » Qui, en tant que chrétien, n'a jamais fait des compromis entre Dieu et le monde ? Je pense qu'on essaie toujours de vouloir plaire à Dieu, mais on peut toujours aussi avoir un petit penchant pour essayer de continuer ou de chercher à plaire aussi à des personnes dans le monde. Ça peut être à cause de notre travail, ça peut être pour tout à fait autre chose. Et ce cantique, cette strophe, nous l'avons chanté, « Viens et pardonne-nous la tolérance de nos compromis ». Alors, ça va bien avec le thème que j'ai choisi pour ce matin. En fait, j'avais le choix entre trois thèmes et je l'ai choisi que ce matin, en effet, le thème que j'ai voulu apporter avec vous. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. À partir du verset 38. Alors, on va essayer de répondre ce matin à une question, et en même temps qu'on répond à cette question, j'espère que nous pourrons prendre pour nous-mêmes un enseignement qui va nous aider, je l'espère, dans notre vie, de demain, de tout à l'heure, d'après-demain, pour éviter les compromis quand on ne doit pas avoir de compromis. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset donc 38, jusqu'au verset 44. On crucifia en même temps avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête. Et il disait, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens disaient en se moquant, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injurièrent de la même manière. Alors ce matin, c'est le verset 40 que je voudrais retenir comme texte. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et dans ce verset, il y a quatre mots que je voudrais garder. Ce sont en fait les quatre derniers mots. « Descends de la croix. » Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si Christ, au moment où il a été crucifié, était descendu de la croix, est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Si vous ne vous êtes pas posé la question, posez-la vous maintenant. Il est crucifié. Et des gens au pied de la croix sont en train de lui dire, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. s'il était descendu de la croix, quelle aurait été la suite des événements? C'est une question qu'on pourrait se poser, et peut-être qu'il y a une première réponse derrière. En effet, ce serait un nouveau miracle. Et on va voir ce matin si il était descendu, ça aurait été un nouveau miracle. On va voir ensemble si ce nouveau, et peut-être dernier miracle, aurait changé quelque chose à l'histoire de l'humanité. Pour nous mettre dans le contexte de ce passage, Christ vient d'être arrêté par les Juifs dans le jardin de Gethsémané, il est conduit vers les chefs religieux. Et là, la sentence est portée, c'est très rapide d'ailleurs. Jésus doit mourir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le conduisent vers Golgotha. Arrivés sur place, ils vont clouer le Seigneur sur la croix. Il va être donné en spectacle au peuple, aux soldats, aux prêtres, à tous ceux qui sont là, au pied de la croix. Et celui qui s'est dit être le Fils du Dieu très haut, est là cloué sur la croix, et il ne fait plus de miracle. Il est humilié, misérablement cloué à la croix, et la foule qui se croit triomphante est en train de lui crier, « Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si tu le fais, nous croirons en toi. » Si les gens de notre époque, ceux qui mettent la divinité de Christ, ou même l'existence de Christ en question, ceux qui ne veulent pas le reconnaître comme étant le Fils de Dieu et Dieu lui-même, pouvaient retourner dans le passé. Imaginez qu'on construise une machine à remonter le temps, et ces gens qui nient l'existence ou la divinité de Christ pouvaient remonter dans le temps, se retrouver témoin de la scène au pied de la croix, incertain si Christ est bien ou non le Fils de Dieu. Pensez-vous qu'ils auraient osé dire la même chose à Christ? Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. Je pense que si ces gens avaient pu remonter le temps, je pense qu'ils se seraient fait embarquer par la foule et eux aussi crieraient la même chose, comme pour prouver qu'il est bien ou non le Fils de Dieu. Alors posons-nous la question donc, si Christ était descendu de la croix, il aurait pu le faire. Mais cependant, il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Peut-être que s'il avait fait, ça aurait été, comme on l'a dit dans le fond là-bas, un miracle, un argument invincible contre tous ceux qui mettraient ses paroles en doute. Mais il y a une autre question que l'on pourrait se poser. Qu'est-ce qui établit le mieux la mission pour laquelle Christ est venu sur la terre? Qu'il descende de la croix ou qu'il y reste? Maintenant, pensons à nous-mêmes. Et rappelez-vous de cette strophe. Viens et pardonne-nous la tolérance de nos compromis. Vous n'avez jamais été, d'une certaine manière, tenté par quelqu'un d'autre en disant, d'accord, tu es chrétien, mais tu peux bien, par exemple, je ne sais pas, sortir avec nous ce soir, on va aller à tel et tel endroit, alors que vous-même, vous savez que vous ne devriez pas y aller. Mais vos soi-disant amis vous pressent et vous disent, allez, viens, laisse tomber, on sait que tu n'aimes pas tellement ces lieux-là, mais tu ne viendras qu'une fois, et puis si ça te plaît pas, tu peux repartir. Peut-être qu'on a déjà était tenté de cette manière-là. Et comment on a répondu? Peut-être que, vous savez, pour se donner bonne conscience, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être. On se dit, je n'ai pas envie d'y aller parce que ce n'est pas un endroit pour moi, mais peut-être que là-bas, je pourrais témoigner. Il est là, le compromis. On sait que ce n'est pas un endroit où il faut aller, on sait que ce n'est pas des gens, par exemple, qu'on ne peut pas, qu'on ne devrait pas fréquenter, mais on va avoir un petit compromis, je ne dois pas faire, mais je vais peut-être en profiter pour. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Si Jésus avait pensé de la même manière, je sais que je ne dois pas descendre, je sais que je dois rester là pour mourir sur la croix. Mais si je descendais, peut-être qu'il croirait. Il n'y a pas eu, et il n'y a jamais eu, de compromis dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir dans la nôtre? Alors, la question c'était, qu'est-ce qui établit le mieux la divine mission de Christ? Qu'il descende de la croix ou qu'il y reste? Sans aucun doute, beaucoup répondraient au temps de Christ, eh bien qu'il descende, et ça nous prouvera qu'il est bien celui qu'il prétend être. Eh bien moi je crois qu'il faut plutôt répondre qu'il y reste sur la croix. Parce que ça montrera qu'il est bien celui qu'il prétend être. Et je crois qu'il est très facile d'imaginer les arguments qui auraient de ceux qui auraient aimé voir Christ descendre de la croix. Alors on peut très facilement, d'ailleurs vous allez m'en donner un ou deux. Vous êtes dans la foule, au pied de la croix, et vous êtes en train de dire à Christ, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu ne souffriras plus. Quel autre argument vous pourriez lui dire ou vous dire? Vous êtes là dans la foule. Juste un peu avant, vous avez dit, descends et je croirai en toi. Quels seraient vos arguments pour dire ça?
Sinon, tu vas mourir.
Sinon, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, je suis sûr que on trouverait quelque chose à dire. Hein. Je vais vous aider un peu. Je suis dans la foule, avec vous, et je pourrais dire, si Jésus les pieds et les mains transpercés par les clous, solidement accrochés à la croix, réussissait sans qu'on l'aide à descendre de la croix, eh bien ce seul miracle, vu de tous et de moi, nous convaincrait qu'il est bien qui il dit être. On se convertirait et on serait obligé de le croire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne descend pas? C'est peut-être qu'il a trop parlé et que maintenant il ne peut plus assumer les actes de ses paroles. Alors la question c'est pourquoi Christ n'est pas descendu de la croix? On va le voir ce matin, mais avant de répondre, laissez-moi vous dire que ce miracle, s'il avait eu lieu, n'aurait pas plus converti les gens incrédules, et je vais commencer à vous donner quelques preuves. Un jour, Jésus est au milieu d'une grande foule qui le suivait, qui le précédait. Il guérit un homme aveugle et muet, en sorte qu'à l'instant même, l'homme voit et entend. Les juifs et les principaux juifs, les chefs religieux, sont témoins de ce miracle. Ils ne peuvent pas le nier. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont entendu l'homme qui était muet de naissance parler. Et cet aveugle muet, tout le monde le connaissait. C'est pas comme si on l'avait été le chercher quelque part dans une autre contrée et que personne ne le connaissait. Tout le monde connaissait cet homme et tout le monde savait qu'il était et aveugle et muet. Il était aveugle et muet et voilà maintenant qu'il voit et qu'il parle. Et qu'est-ce que font les juifs qui sont présents et les chefs religieux? Est-ce qu'ils nient le miracle? Non. Est-ce qu'ils croient et est-ce qu'ils se convertissent? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent au Seigneur, tu as fait un miracle, en effet. Mais tu l'as fait par la puissance, vous savez de qui? De Satan. En Jean chapitre 8, verset 52, nous connaissons maintenant que tu as un démon. Les Juifs qui parlent à Jésus. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je vous le demande, que pouvait faire Jésus pour convaincre de telles personnes? guérir un aveugle ou 10 aveugles plutôt au lieu d'un seul? Est-ce qu'il aurait dû ressusciter 20 morts plutôt qu'un seul? Ces hommes n'auraient-ils pas encore répondu? Tu as fait 20 miracles, en effet, même 100 miracles, mais tu les as fait par le pouvoir du démon. Aujourd'hui, les hommes devant ce même Jésus-Christ le défieraient de descendre de la croix s'il devait mourir, venir et mourir en 2014. Les hommes d'il y a, de l'époque de Christ, sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. En Jean chapitre 10, verset 20 encore, nous lisons. Plusieurs d'entre eux disaient, en parlant de Jésus, « Il a un démon et il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous ?» Vous savez, si Jésus, descendu de la croix, plein de vie, était venu se jeter aux pieds de ces Juifs pour les supplier de se rendre à l'évidence, je peux vous assurer qu'il l'aurait qualifié de démon, et ne serait pas converti, repenti pour autant. Alors peut-être que quelques-uns pourraient encore dire qu'un miracle de plus n'aurait pas été inutile, surtout si Christ était descendu de la croix. Alors pourquoi Jésus n'est-il pas descendu de la croix? Encore un petit peu de patience et je vais répondre à la question. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que si ce nouveau et dernier miracle de Jésus fut accompli, les Juifs n'en auraient pas cru davantage, et voilà encore une preuve. Ils réclament un dernier miracle. Eh bien, le voici, ce dernier miracle, encore plus grand, plus éclatant que celui qu'ils demandent. Jésus ne descend pas de la croix. Il y reste et il y meurt. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le temple? Le voile se déchire avec violence. Golgotha tremble sous leurs pieds. Les morts sortent de leur tombeau. Ils se promènent sous le regard de ceux qui étaient présents au pied de la croix. Le ciel est en deuil et il se voile de ténèbres. Le soleil retire sa lumière. La nature entière pleure la mort du Fils de Dieu. Il est là le miracle. Regardez un autre passage, c'est toujours en Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et en même temps, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et ils furent vus de plusieurs personnes. Quand les centeniers de ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent fort effrayés et dirent « Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. » Frappés d'épouvante et d'admiration, les soldats romains étaient certainement les seuls qui, quelques heures auparavant, couvraient Jésus de moqueries, se partageant ses lambeaux de vêtements. Eh bien, ces mêmes soldats romains, venus pour le garder, s'écrient « Certainement, celui-ci était bien celui qu'il prétendait être. » Ce ne sont même pas les Juifs qui le disent, ce sont les Romains. Le centenier lui-même, un païen, présent à ce spectacle, rend gloire à Dieu dans son cœur. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit « Cet homme était juste. » Le Seigneur est venu dans son peuple ne l'a pas voulu, ce sont les autres qui l'ont pris. Ou qui ont, d'une certaine manière, comme ce centenier, reconnu qui il était. Pensez-vous vraiment que Jésus avait besoin de descendre de la croix pour que ces gens qui étaient présents à ce moment précis puissent croire et se convertir? Non. Ces autres miracles que Christ a accomplis par sa mort étaient bien assez grands pour convaincre les cœurs les plus durs. Pourtant, est-ce que les Juifs ont cru? Se sont-ils convertis? Repentis? Non. Une heure plus tard, les pharisiens ont demandé des soldats pour entourer le sépulcre, et en parlant de Jésus à Pilate, eh bien, ces mêmes Juifs l'appellent un séducteur. Alors les prêtres vont payer des gardes pour répandre un mensonge. Que faire pour implanter la foi dans des cœurs pareils?
On a chanté, je ne sais pas si c'est dans ce même... c'est pas dans ce contexte, c'est dans un autre, où on a chanté que Dieu a besoin de changer nos cœurs de pierre.
Et vous savez, si Dieu ne change pas notre cœur de pierre en cœur de chair, on ne pourra pas croire. Fallait-il renverser le temple plutôt que de simplement déchirer le voile pour que ces hommes puissent croire? Est-ce qu'il fallait plutôt ouvrir un millier de tombeaux plutôt que quelques-uns pour qu'ils puissent croire? Est-ce qu'il fallait plutôt anéantir le soleil plutôt que de l'obscurcir pour que ces hommes puissent croire, ces hommes et ces femmes puissent croire? Moi, je crois que ces hommes, ces femmes, ces gens qui étaient présents auraient préféré boucher leurs oreilles au bruit du temple croulant sur sa base. Ils auraient fermé les yeux devant les milliers de morts ressuscités comme ils l'ont fait devant la fille de la veuve, devant Lazare, devant Christ, devant les quelques-uns qui alors parcouraient les rues de la ville sainte quand, au même moment, Christ était mort. Ils auraient nié la disparition du soleil comme ils ont nié les ténèbres qui sont venues obscurcir la terre. Et plutôt que d'y croire, ces incrédules auraient préféré allumer certainement des flambeaux pour éclairer l'endroit et pour faire mentir Dieu et remplacer l'astre du jour. Vous savez, je dis souvent, quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Encore une fois, si Jésus était descendu vivant de la croix, les mains et le côté et les pieds percés, ces gens n'auraient pas cru davantage. Alors j'espère que vous pensez qu'un miracle de plus n'aurait pas converti un juif de plus. Mais si nous pouvions nous transporter nous-mêmes à Golgotha au jour et à l'heure de la crucifixion en adressant ces mêmes réflexions, ce que je suis en train de vous dire ce matin, à cette foule juive présente, pensez-vous qu'elle se serait laissée persuader aussi facilement? Je ne crois pas. Nous pourrions remonter le temps, leur dire, mais regardez le voile du temple, regardez les morts qui ressuscitent, regardez le tremblement de terre, regardez l'obscurité. Mais ils auraient quand même trouvé autre chose pour nous dire. Mais pourquoi Jésus n'est-il pas descendu de la croix? C'est ce que nous demandions. Pas un tremblement de terre, pas l'obscurité, pas de résurrection, pas de voile déchiré. On ne demandait qu'une chose, alors que Dieu leur en a donné 5 ou 6, eux ne voulaient qu'une chose, c'est que Dieu descende de la croix. Ça, c'est leur argument. S'il est le Fils de Dieu, comme il le dit, qu'il descende, et nous croirons, on se moque des autres choses qui se passent. On veut le voir descendre de la croix. C'est la seule chose qu'on veut. Alors pourquoi Christ n'est-il pas descendu? On va le voir. D'abord, pensons une fois encore au peuple d'Israël. Il se trouve au pied de la croix, insultant un être qui, à ses yeux, n'était rien d'autre qu'un blasphémateur à plaindre et à condamner et à faire mourir. Le peuple était devant le tribunal de Pilate et ils criaient à voix haute, « Crucifie-le, crucifie-le !» Ces gens présents qui, hier encore aux portes de Jérusalem, couraient au-devant de Jésus, jonchaient de fleurs sa route en criant « Hosanna, gloire au Fils de Dieu !» Comme quoi l'homme est vraiment, comment on dit, versatile, c'est bon que je cherchais, merci. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, et après-demain c'est peut-être, ou on verra. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait jamais de compromis dans la vie, dans les paroles de Christ. Il ne devrait pas y en avoir dans notre vie, dans nos paroles, dans nos pensées. Pourquoi Christ n'est-il pas descendu de la croix? Simplement parce que la foule est venue à Golgotha pour avoir des émotions puissantes. Et là voilà cette foule se poussant et se heurtant pour voir expirer un homme dont jadis elle écoutait les paroles avec admiration. Mais qui est le but de cette foule présente? Tout d'ailleurs, comme les hommes d'aujourd'hui qui rejettent Christ, était de le crucifier. Il ne fallait pas commencer par l'écouter et l'adorer. Vous savez, tant que le Seigneur leur donnait un enseignement à manger et à boire, c'était l'être le plus merveilleux. Et vous savez, on retrouve un peu ça dans les églises. Tant que le pasteur ou des personnes dans l'église m'apportent des choses, je reste. Mais quand on m'apporte plus rien, je pars. Si notre mentalité première était « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter moi d'abord à l'église plutôt que « qu'est-ce que l'église peut m'apporter ?» je pense que les églises marcheraient beaucoup mieux. On va dire que nos églises marchent bien, Pessac et Cahors. Mais si vraiment on avait toujours, tous les dimanches, ou le mardi, ou le mercredi, le samedi, je ne sais pas, quand vous réunissez en plus du dimanche, mais si on avait cette attitude de dire « qu'est-ce que je peux ?» amener à l'église pour les autres. Vous savez, c'est le Seigneur qui a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein. On le dit dans le monde, mais le monde, je suis sûr qu'ils ne savent même pas, le monde ne sait même pas que ça vient de là. C'est le Seigneur qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qu'on donne à notre église? Ah, c'est dire, oui, mais c'est gentil, mais toi tu parles en tant que pasteur. Peut-être que tu attends que dans ton église on apporte des choses, mais avant d'être pasteur, j'étais pas pasteur. Et puis c'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux rien apporter non plus, moi. En fait, la mort de Christ était portée dans leur cœur avant qu'il fût présenté à Caïphe. Un jugement n'a jamais été fait aussi rapidement que pour Jésus. Ils avaient préparer sa mort. Et pour eux, tout était bon, des faux témoins, des mensonges et des calomnies. Et écoutez-les encore, demandant à Jésus de descendre de la croix, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils pensent être les vainqueurs. Ils pensent être les vainqueurs. Et ils se disent, on va lui demander de descendre, parce qu'on sait de toute manière qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est pas qu'il n'y arrivera pas. C'est qu'il ne veut pas. Pensez-vous aussi que la place des sacrificateurs du Dieu de miséricorde doit être au pied de la croix ou est-ce qu'il doit être autre part? Je répète ma question. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est devant le Sanhédrin et qu'il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Qu'est-ce que fait le souverain avec ses vêtements? Il déchire ses vêtements. Et ce qui est un signe de blasphème. Il a blasphémé, donc je suis obligé, je déchire mes vêtements, ma robe. Donc, ces mêmes personnes sont au pied de la croix. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que la place de ces personnes, de ce sacrificateur, soi-disant du Dieu de miséricorde, doit être au pied de la croix ou plutôt dans leur temple? Pourquoi dans leur temple? Si ces gens étaient réellement sincères, alors je peux vous garantir qu'ils devraient être au temple à ce moment précis pour offrir des taureaux, des génisses, pour apaiser le souverain juge de celui qui, selon eux, a mérité la mort parce qu'il se disait être Dieu. Mais ils ne sont pas dans le temple en train d'essayer de calmer la colère de Dieu. Ils sont au pied de la croix. Ils remplissent leurs yeux du triomphe de leur haine. Ils se délectent à la vue du sang qu'ils ont tant souhaité voir couler. Et satisfaits de cette horrible vengeance, ils l'aggravent par la torture de leurs paroles outrageantes et de leurs rires moqueurs. Si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Et vous savez, c'est encore ce que nous pourrions dire aujourd'hui. Pourquoi Jésus n'est-il pas descendu de la croix? S'il ne descend pas de la croix, voyez plutôt ce qu'il y fait sur la croix. Eux l'injuriaient. Lui, à leurs injures, répond par le silence. Encore une leçon pour nous. Eux, ils oublient que c'est le jour de la préparation du sabbat. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entonne le psaume de David. Vous savez quel psaume? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eux, ils abandonnent leurs affaires, leur famille. Lui, il recommande sa mère à son ami. Et son ami à sa mère. Eux, ils lui donnent du fiel, du vinaigre à boire. Ils transpercent son côté d'une lance et ils le maudissent. Et vous savez ce que lui fait, ou plutôt ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour la dernière fois, pourquoi Jésus n'est-il pas descendu de la croix? Voici la réponse. Écoutez et sachez que c'est pour ces gens-là. C'est pour nous. C'est pour vous. Pour notre bien. Pour notre salut éternel, qui n'est pas descendu de la croix. Parce qu'il voulait nous sauver malgré nous. Parce que sa mort expiatrice devait effacer nos péchés. Pourquoi n'est-il pas descendu? Parce que s'il était descendu de la croix, la vengeance de Dieu aurait toujours pesé sur notre tête. Sa colère serait toujours au-dessus de nous. Lui, il a voulu nous conserver, non pas conserver sa vie, mais nous la donner afin de nous donner la vie éternelle. Pourquoi n'est-il pas descendu? Parce qu'il ne voulait pas s'épargner à lui-même des souffrances, mais qu'il voulait nous arracher au tourment de l'enfer. S'il était descendu, il ne serait pas mort et le sacrifice n'aurait pas eu lieu. Et nous serions encore dans nos fautes, condamnés pour l'éternité. Lui, il a voulu mourir pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il n'est pas descendu de la croix parce qu'il nous aime malgré nous. Plus que nous et plus que lui-même. Et lorsque nous croyons lui avoir arraché la vie, en fait, on réalise par la grâce de Dieu que c'est lui qui nous la donne. Il aurait pu, d'un seul acte de sa volonté, descendre de la croix, confondre les paroles orgueilleuses de chacun, briller aux yeux de tous ceux qui étaient présents. Mais il a préféré rester sur la croix, entendre nos blasphèmes, nos insultes, s'anéantir devant nous, lui qui était Dieu et qui est Dieu, afin de nous pardonner, nous bénir, nous sauver et nous donner la vie éternelle. Pourquoi Christ n'est-il pas descendu de la croix? Parce que s'il l'avait fait, nous serions toujours couverts de nos péchés, sans avocat auprès de Dieu. Que serions-nous devenus si son Père nous avait traités comme nous méritions d'être traités? Et bien peut-être que des gens ne seraient pas à l'église ce matin. Que serions-nous devenus abandonnés à notre propre justice? nous, injustes devant le Dieu de toute sainteté. Il y a les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Il est, je crois, par exemple, dans l'Amérique du Sud. Et dans une de ses chansons qui s'appelle « Si j'avais été là-bas ». Alors, j'ai traduit de l'espagnol en français simplement une strophe. Et il dit dans sa chanson « Si j'avais été là-bas au pied de la croix, il faut que je l'admette. Moi aussi, j'aurais blasphémé ton nom. Moi aussi, je t'aurais injurié. Et il faut que je l'admette, moi aussi, j'aurais demandé ta mort. Oui, en y réfléchissant bien, moi aussi, j'étais de ceux qui ont couronné ton front d'épines et de douleurs. Si j'avais été là-bas, il faut que je le reconnaisse. Moi aussi, j'aurais cloué tes mains et tes pieds sur la croix, mon Seigneur. » Peut-être on va se dire, en 2014, moi, j'aurais pas fait ça. Mais je pense que si on avait été en 1933, on aurait certainement fait ça. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu, qui nous a ouvert les yeux. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, si vous êtes sauvé, avant de l'être, vous étiez vous aussi de ces gens-là. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous faites toujours partie de ces gens-là. C'est pas forcément agréable à entendre. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais tu ne me connais pas, jamais j'aurais voulu la mort d'un homme. On l'aurait voulu aussi. Parce qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Seigneur et le Sauveur pour notre vie, le seul par qui nous puissions être sauvés, ça veut dire que vous aussi, vous faites partie de ces gens qui ont vécu il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Donc pour conclure, et je termine, je dirais, béni sois-tu Seigneur, parce que tu es resté sur la croix, tu n'as pas fait de compromis. Merci parce qu'il n'a pas répondu à l'attente de ces gens-là, tout en ayant répondu. Fais ce miracle et on croira en toi. Il n'a pas fait un miracle, il en a fait quatre en même temps. Quatre en même temps. C'est pas pour ça qu'ils ont cru pour autant. S'il n'était pas resté sur la croix, nous aurions été obligés de monter sur la croix. Et pour l'éternité. On peut donc bénir le Seigneur, et c'est ce que Lala nous a dit avec le passage en Éphésiens. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. De ne pas avoir exaucé la demande insensée de ces hommes incrédules. Béni soit Dieu qui est mort pour nous. Lui qui nous pardonne. Et qui aujourd'hui nous a ouvert la porte du ciel, si nous nous approchons de lui. Si vous ne connaissez pas Christ comme votre Seigneur et Sauveur ce matin, ne restez pas au pied de la croix. Venez à la croix. Venez à Jésus-Christ et dire, moi aussi j'aurais fait partie, je faisais partie de ces gens, mais je veux croire en toi. N'ayons pas de compromis entre le monde et Dieu. On veut ressembler en tant que chrétien à notre Seigneur, il n'y avait pas de compromis dans sa vie. Que le Seigneur nous aide donc à prendre les bonnes résolutions, en 2014, à faire les bons choix, et à tenir ferme dans nos convictions qui doivent être ancrées dans la parole de Dieu. Prions.